Ici à l'ESENA, qui est notre lieu de vie à Laetitia et moi, et où est le siège de l'asso Busuganco, et donc pas mal d'activités de l'écolieu Padus, on pense via le prisme de la permaculture, qui est en fait de créer des écosystèmes résilients en s'inspirant de la nature. Donc ça va au-delà du simple fait de faire un potager, c'est vraiment comment on peut disposer les éléments d'un écosystème ensemble de façon à ce qu'ils cohabitent le mieux possible, qu'il y ait des relations de synergie entre les éléments, etc. Et donc on va appeler ça le design en permaculture. Et donc c'est une partie de mon quotidien de designer le lieu et puis après d'en prendre soin et de produire une partie de notre alimentation, entre autres. Donc on va faire une petite visite radio, je ne sais pas si je vais réussir à faire voyager visuellement, mais on va essayer le mieux possible de décrire en tout cas ce qui se passe ici. Donc j'ai tendance à commencer la visite par le début de notre potager, qui est en fait situé juste en sortie de maison à côté de la cuisine, qui est la fameuse spirale aromatique qu'on croise beaucoup chez les permaculteurs, qui est en fait un moyen d'avoir toutes les herbes aromatiques sur un même espace, parce que c'est en 3D et donc c'est une jolie spirale élevée, et ça permet de créer différents microclimats pour lesquels chaque plante a une affection particulière, quoi. Par exemple le romarin, là il est au sommet de la spirale parce qu'il aime bien être au soleil, avoir les pieds au sec, un sol drainé, etc. Et puis plus on descend dans la spirale, plus on va avoir des aromatiques qui vont avoir besoin d'un peu plus d'onde, d'avoir les pieds un peu plus à l'humidité. Voilà. Et puis pour finir au niveau de la spirale, on a une petite mare dans laquelle viennent se réfugier des grenouilles. Donc là on les voit pas, elles sont pas encore arrivées cette année, mais l'année dernière on avait 3 petites grenouilles. Et la spirale est aussi sur le chemin du retour du potager. Donc quand on rentre du potager, on va pouvoir assaisonner nos légumes qu'on a récoltés en fonction de ce qu'on a dans notre panier et ce qui nous vient à l'esprit quand on a envie de cuisiner.
On va voir ce potager ?
On va voir le potager. Donc le potager, enfin l'espace en tout cas appelé potager ici, donc c'est une surface qui fait environ 400 mètres carrés. Mais cultivé, il y a une 100 mètres carrés, je crois, de planches de culture. Il y a plein de principes qu'on applique ici en jardin au naturel et en appliquant les principes de la perma, mais c'est de la rotation des cultures, l'association, voilà, essayer de faire avec ce qu'on a sur place. Donc il n'y a rien qui sort du potager, si ce n'est pour se mettre dans les ventres des gourmands. Il y a très peu d'intrants, même naturels. On a un voisin qui a des chevaux, donc on lui demande de temps en temps un peu de fumier. On a un petit peu de paille qui vient d'un copain agriculteur bio qui nous a fourni de la paille. Mais l'idée, c'est de pouvoir se dire qu'un jour, on pourra faire sans. Voilà, puis on a nos poules qui sont pas dans le potager, mais qu'on amène de temps en temps pour qu'elles nous travaillent les planches et qu'elles profitent des limaces qui sont voraces. Voilà, donc c'est. Et bien sûr, enfin voilà, sans intrants chimiques, pas de travail mécanique, mis à part de temps en temps un petit coup de tondeuse dans les allées principales, tondeuse ou débroussailleuse, mais c'est vraiment assez ponctuel. Sinon, tout est fait à la main. Il y a très peu de désherbage puisque le sol est couvert, que les herbes qui poussent au potager, on apprend à les connaître et à les apprécier pour leur qualité gustative, médicinale, ou parce qu'elles sont mellifères, ou parce qu'elles ont un rôle pour la vie du sol. Donc voilà, on désherbe assez peu finalement, et c'est bien pour tout le monde. Il y a plusieurs objectifs en fait à ce potager. Le premier, c'était de pouvoir nourrir les gens qui vivaient sur le lieu, d'être le plus autonome possible en légumes. Voilà, premier objectif. Le deuxième, c'est de pouvoir nourrir aussi les gens qui viennent ponctuellement, donc quand il y a un chantier collectif, des woofers, des touristes, voilà, des chantiers collectifs, on peut aussi proposer des choses qui viennent du jardin. Et le troisième objectif, c'est d'être un espace pédagogique aussi, qui est un support de formation pour moi ou d'atelier, voilà, pour montrer différentes techniques de potager. Alors la permaculture n'est pas une technique de potager, c'est vraiment une façon de penser et de concevoir. Mais voilà, on peut faire de la permaculture au potager en essayant d'appliquer des techniques surtout de jardinage naturel, sans intrants, sans produits chimiques, industriels, etc. Donc les objectifs sont clairement atteints et en fait c'était un de nos critères au départ du projet, c'était de pouvoir être autonome très rapidement en légumes, ce qu'on a réussi quasi dès la première année. On a mis beaucoup d'énergie à transformer en fait ce gazon, hein, c'était juste un gazon en potager productif.
Et vous êtes autonome, est-ce qu'il y a une surproduction, qu'est-ce que vous en faites?
Ouais, c'était pas un objectif forcé au départ, mais en permaculture on dit que on essaie de redistribuer le surplus. Donc ça peut être un surplus de production, mais c'est aussi un surplus de connaissances, de temps, d'énergie, de compétences, enfin voilà. Et donc effectivement on a un surplus de production au potager. Et donc on le redistribue selon différents moyens, on va dire. Il y a des gens qui sont contents de nous acheter des légumes, d'autres qui sont contents d'échanger. Ça peut être, on peut faire du don à des personnes qui nous ont aidés, ou parce que ça nous fait plaisir, ou quand on fait des chantiers collectifs, on trouve ça normal que le potager puisse servir à préparer les repas, etc. À savoir aussi que pour être autonome en légumes et pas manger des choux tout l'hiver, c'est intéressant de pouvoir transformer ses productions l'été, donc notamment les tomates, les courgettes, aubergines quand on en a, etc. De faire des bocaux, les haricots, les petits pois, les carottes, ça nous permet d'avoir une alimentation variée même l'hiver, quoi. On est content de ramasser les poireaux et les choux et les patates, mais voilà, on a aussi, on peut se faire une petite ratatouille du jardin en hiver, elle a été mise en conserve durant l'été.
Comment toi t'as découvert la permaculture?
Comment j'ai découvert la permaculture? Bah en fait c'est via mon intérêt pour l'écologie en général, en fait, c'est et les autres façons de produire et de consommer. Je suis très vite tombé dans des lectures qui parlaient de permaculture et j'ai tout de suite senti qu'il y avait j'avais un attrait vraiment pour ça, et donc j'ai bouquiné, j'ai regardé des vidéos, et puis après surtout j'ai été dans des endroits qui pratiquaient la permaculture ou qui proposaient des formations ou des stages. Voilà, je suis vraiment tombé dedans et voilà, je fais ça, c'est mon quotidien finalement, et ça me va très très bien. Et puis aujourd'hui je suis content de pouvoir transmettre ce que j'ai appris durant mes quelques années d'expérience maintenant, de pouvoir aider des gens à s'immiscer dans ce monde-là, en leur expliquant aussi que c'est pas du potager, j'insiste là-dessus, parce que malheureusement, le biais est trop souvent commis. Alors c'est hyper chouette que les gens fassent du potager, mais voilà, n'oubliez pas que la permaculture, c'est plus vaste que ça, et qu'il y a un champ des possibles énorme, et qu'on n'est pas obligé d'être fan de potager pour faire de la perma, quoi.
Ici, qu'est-ce qu'il y a d'autre en place à part le potager?
Eh ben, on peut aller faire un petit tour au verger, alors qui existait mais qu'on est en train de transformer. Et puis on a un petit champ aussi qu'on va dire qu'il est plutôt avisé petit modèle agroécologique, quoi, avec différents types de cultures. Voilà. Donc je peux t'emmener au champ ou au verger, ouais.
C'est parti.
Alors si, ce que je peux dire sur l'ensemble du lieu, c'est aussi que on a vraiment envie d'accueillir la biodiversité, et donc on crée plein d'espaces de refuge. La spirale en est un finalement, parce que les insectes viennent dans les pierres, peuvent venir dans la mare, enfin les insectes ou d'autres animaux. C'est important d'avoir des points d'eau en fait pour les oiseaux, pour les abeilles qui viennent boire. Et puis on crée des haies avec des haies, ce qu'on appelle ou bocagères, ou des haies diversifiées avec différentes espèces et variétés d'arbustes dans les haies, qui nous permettent d'avoir des fruits, qui permettent aux oiseaux de nicher, Ça peut être des arbres aussi qui fixent l'azote de l'air et donc qui vont permettre d'enrichir le sol. Voilà. Et donc chaque espace est pensé pour qu'il y ait de la place pour la nature. Donc là on arrive dans le verger, donc qui était un verger existant quand on est arrivé. Il a été planté il y a une trentaine d'années. Donc c'est un verger traditionnel, on va dire, hein, qui a été planté donc il y a 30 ans. Donc c'est les arbres qui ont été plantés, c'est donc dans un verger classique, donc des pommes et des poires, bien alignés. Les arbres font tous la même taille, la même hauteur. Et donc si on est très content de profiter de ces fruits l'été, et puis bah, quasi toute l'année pour les pommes, on a aussi envie de goûter d'autres fruits. Et donc l'idée, c'est de transformer ce verger petit à petit en quelque chose que certains appelleront forêt-jardin, forêt comestible, jardin-forêt, enfin peu importe le terme. Mais l'idée, c'est de créer de la diversité là aussi, et donc de la diversité dans les espèces. Donc changer du poirier et du pommier, on peut mettre des cerisiers, on peut mettre des pruniers, des cognassiers, du kiwi. Voilà, et puis pour les plus audacieux, il y a plein d'autres espèces intéressantes. Et varier aussi les hauteurs, les strates en fait, qu'on appelle dans une forêt. Donc, il y a des arbres de canopée, il y a des arbres ou type arbuste un peu plus bas, il y a des plantes herbacées. Voilà, donc un verger qui était à l'origine planté juste d'arbres et d'herbes qu'il fallait tondre. On est arrivé à aujourd'hui, alors c'est en construction, mais on a donc des arbres fruitiers, on a des petits arbustes maintenant, fruitiers, qui donnent déjà des fruits, donc tout ce qui est groseille, groseillier, caseille, voilà. On a planté des kiwis, des kiwai, de la vigne. Il y a plein d'herbacées, donc type des aromatiques, il y a des fraisiers au pied des arbres, des plantes médicinales, il y a l'artémisia, il y a de la consoude, il y a des légumes vivaces, choux perpétuels, poireaux perpétuels, etc.
Donc chaque plante apporte à l'autre.
Et chaque plante apporte à l'autre. Après, c'est toujours difficile de savoir réellement ce qu'apporte une plante à une autre plante, mais en tout cas, ce qu'on constate dans la nature, c'est qu'il n'y a pas de monoculture, qu'il y a une diversité et que nous, on essaie de la reproduire. Et bah, y a peut-être des associations qui vont marcher mieux que d'autres. Après, de là à savoir vraiment ce qui fonctionne réellement, je pense qu'on en est au balbutiement de ce qu'on apprend à connaître des arbres, de leurs liens avec les champignons. Et donc, aujourd'hui, nous, on expérimente d'une manière sans forcément attendre de résultats scientifiques derrière. On a envie de planter des fraisiers à un endroit, on se dit on les plante là, et puis si ça marche, c'est bien, si ça marche pas, bah on essaie de comprendre pourquoi, mais c'est pas grave, on en a ailleurs aussi. C'est une forme de résilience, c'est pas de planter tous ces fraisiers au même endroit, quoi. On en plante un peu partout. Puis comme on est gourmand, on est content de les trouver sur le bord du chemin, quand on se balade. Voilà. Même quand on va travailler, puisque moi j'emprunte le chemin tous les jours pour aller à la serre un peu plus bas, et l'été, au printemps, je suis très très content sur mon chemin de pouvoir trouver de quoi grignoter. Voilà. Donc là on est dans la partie du verger qui n'était pas planté en fait. Il y avait un espace de 200-300 mètres carrés qui était vierge, et donc c'est là qu'on a amené aussi beaucoup de diversité dans les espèces. Et certains arbres fruitiers portent des étiquettes avec des noms, en fait c'est parce qu'on avait proposé à certaines personnes de faire une cagnotte en fait, et l'idée c'était de si vous faites un don pour planter un arbre, et vous pourrez choisir votre arbre, le parrainer, et puis bénéficier d'une récolte, voilà, ou d'une contrepartie, quelle qu'elle soit. Voilà, donc on a eu un petit succès qui nous a permis de planter pas mal d'arbres. Et puis donc on a dans cette partie aussi créé une mare, une grande mare qui fait office d'accueil de biodiversité, là encore, mais qui aussi permet de créer un microclimat, puisque en fait une masse d'eau chauffée au soleil, ça garde la température plus longtemps qu'un sol, et puis ça permet aussi de réfléchir les rayons du soleil, etc. Donc il y a autour de la mare en fait un microclimat un peu plus chaud qu'ailleurs, quoi. Et donc en jouant avec ce microclimat, on peut essayer d'adapter des plantes un peu plus sensibles au gel ou qui ont besoin d'un peu plus de chaleur. Et voilà. Et puis en plus, c'est un endroit qu'on aime bien parce qu'on est en bas du verger, on a une jolie vue alentour. Alors il y a quelques champs conventionnels, mais bon, c'est aussi, ça fait partie du décor ici dans nos paysages. Et même si on a envie que les choses changent, il faut s'habituer aussi à avoir ce genre de paysage et comprendre pourquoi en fait si on en est arrivé là. Et essayer de se dire qu'on peut faire autrement, mais voilà, en discutant surtout avec les agriculteurs par exemple.
Comment ils ont vu votre arrivée ici ?
Et ben en fait on avait préparé notre projet, on l'avait écrit, on avait présenté ça en mairie. Et donc en mairie, bon, ils ont trouvé intéressant, mais sans forcément soutenir le truc, quoi. Et puis quand on est arrivé sur le lieu, on a été se présenter aux voisins. Donc on n'a pas un voisin directement agriculteur, mais notre parcelle est côte à côte à celle d'un couple d'agriculteurs conventionnels. Donc on a juste été les voir, leur dire, bah voilà, nous c'est notre projet, c'est ça, mais j'aimerais bien savoir ce que vous faites, comment vous le faites. Donc j'ai participer à la traite des vaches, voilà, les questionner sur leurs itinéraires techniques, pourquoi ils faisaient ci et ça. Voilà, et donc c'est vraiment dans le dialogue. Alors s'ils partagent peut-être pas toutes nos convictions ou pas le temps forcément de s'intéresser à ce qu'on fait, il y a une forme de respect malgré tout. Il y a même le voisin l'autre jour qui m'a téléphoné, c'était un autre voisin agriculteur, mais qui m'a téléphoné pour me dire que il allait passer avec son tracteur dans le champ, déposer du fumier, donc il voulait m'avertir que voilà, l'odeur pouvait être dérangeante, et donc je trouvais ça vraiment chouette, enfin, se dire que bah voilà, on est dans la compréhension et le respect mutuel, même si nous on aimerait que leurs pratiques changent, on sait que ça dépend pas que d'eux, ça dépend de plein d'autres choses, et donc voilà, on est plutôt... En tout cas, pour ceux qui font l'effort de comprendre ou de nous connaître, voilà, on est vraiment dans la discussion et la bonne entente. Et puis bah, après, il y a ceux qui ne s'intéressent pas du tout à ce qu'on fait, qui ont une idée reçue de la permaculture et qui ne veulent pas sortir de leur pensée, on va dire, et qui ne s'intéressent pas à ce qu'on fait réellement. Et donc, bah, eux, ils nous dénigrent. Mais voilà, nous, ça ne nous empêche pas de faire notre truc. Et puis, on ne vient pas les embêter tant qu'ils ne viennent pas... m'embêter, moi, mais écoute, moi j'ai pas de problème avec eux, hein, chacun agit comme il a envie de faire, quoi. Moi j'ai de leçons à donner à personne, surtout pas aux agris, donc voilà, moi j'ai juste envie de faire à mon échelle ce que je pense être bien, et si ça peut inspirer d'autres pratiques, c'est top, quoi.